Et nous allons entendre maintenant les textes qui seront donc les bases de la prédication, en tout cas qui vont donner le fondement. Et donc un premier texte sera dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, et ensuite deux autres textes seront dans les Évangiles.
Alors, première lecture, Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et la seconde lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 1er au verset 26, versets 26 à 38, nous lirons. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Et puis une troisième lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1 et au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus.
Voilà, l'Esprit de Dieu a agi dans le sein de Marie pour donner vie à Jésus. Et de même, il doit agir dans nos cœurs ce matin pour donner vie, pour nous permettre de comprendre la parole de Dieu ce matin. Par nos propres forces, on peut voir des mots, des phrases, mais de les comprendre réellement, c'est l'Esprit de Dieu qui peut le faire dans nos cœurs. Or, Noël est un moment particulièrement propice pour parler de la venue de Jésus dans le monde. Et chaque année, lors de ce culte de Noël que nous vivons, comme aujourd'hui, eh bien, nous abordons des sujets en lien avec la naissance de Jésus-Christ. Et nous avons déjà parlé dans les années précédentes de la généalogie de Jésus. On a parlé des mages, hein, c'est qui, d'où ils viennent, etc. On a parlé de la divinité de Jésus, de son humanité. Nous avons parlé de la foi de ceux qui entouraient Jésus lors de sa venue au monde. Voilà pour les quelques dernières années. Et cette année, nous allons nous arrêter sur un sujet tout à fait particulier. C'est totalement unique dans l'histoire. Cela pourrait paraître un sujet secondaire, mais c'est un élément fondamental. Si je prends l'image, c'est comme la porte qui nous permet d'entrer dans ce que l'on appelle le vrai Noël. Ou comme d'autres l'ont nommé, la naissance virginale est le gardien de la porte de Noël. Et si nous n'entrons pas par cette porte, eh bien nous ne verrons jamais le vrai Noël. Voilà pourquoi nous allons cette année parler de la naissance virginale de Jésus. Et le titre de cette prédication est « Jésus, le seul né d'une vierge ». Et ceci est tellement important que même le symbole des apôtres, qui ne contient que les éléments essentiels de la foi chrétienne, le mentionne. Peut-être vous le connaissez, « Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. » Vous voyez ? C'est dans le symbole des apôtres. Vous imaginez Joseph et Marie, qui étaient conscients de cette situation, tout à fait inhabituelle, unique, surnaturelle. Ils devaient en fait attendre impatiemment la venue de cet enfant au monde. Comment serait-il ? Parce que cet être était unique, totalement unique en son genre. Alors c'est vrai qu'il y a des légendes et des mythes de naissance virginale de certains empereurs. Alors ça a été construit pour quelque part donner de la valeur aux empereurs. Mais pour Jésus-Christ, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas juste une croyance. C'est une réalité, nous allons le voir ce matin. Le seul qui est né d'une vierge, il n'y en a jamais eu avant et il n'y en a jamais eu après. Alors nous commencerons ce matin par une première partie, la plus conséquente, où nous réfléchirons à ce qu'est, qu'est-ce que c'est que la naissance virginale de Jésus et ce qu'elle n'est pas. Ensuite nous continuerons par une partie qui explique, mais pourquoi fallait-il cette naissance virginale? Et nous terminerons par un temps de réflexion intitulé « La naissance virginale de Jésus, qu'est-ce que ça change dans ma vie ?» Ça va? En fait, vous n'avez pas le choix non plus. Hein. Mais comme ça, vous savez de quoi nous allons parler ce matin. Alors, qu'est-ce que la naissance virginale de Jésus? Eh bien, Dieu a donné la vie de plusieurs manières dans l'histoire de l'humanité. Vous saviez ça? Par exemple, il a commencé par donner la vie à un homme qu'il a formé à partir de la poussière du sol. Les enfants, vous connaissez celui qui a été formé de la poussière du sol? Il s'appelle comment? Ça commence par A, puis ça finit par Dan. Il s'appelle Adam. Hein? Donc lui, en fait, il a reçu la vie, il a été formé de la poussière du sol et il a reçu la vie. Ensuite, Dieu a donné la vie à une femme qu'il avait formée à partir de la côte du premier homme, le seul être humain sur terre. Comment s'appelle cette personne? Ça commence par E, ça finit par Ève, exactement, Ève. Hein? Dieu a ensuite créé Caïn, et ensuite tous ses frères et sœurs, comme vous et moi, à partir en fait du ovule de la maman et du spermatozoïde du papa, comme deux entités différentes pour une nouvelle vie complètement unique. C'est un mystère. On peut expliquer certaines choses scientifiquement, mais on ne peut pas comprendre comment ça peut réellement se passer. C'est une œuvre de Dieu, c'est un mystère. Dieu a aussi donné la vie à des enfants alors que leurs parents ne pouvaient biologiquement plus avoir d'enfants. Vous connaissez certaines histoires, par exemple l'histoire d'Abraham et Sarah, qui eut un fils qui s'appelait Isaac. Hein? Donc le fils Isaac, Sarah, elle n'était plus en âge d'avoir des enfants. Hein? Et ils ont eu cet enfant. Ou bien Isaac lui-même, avec Rachel, ne pouvait pas avoir d'enfants pendant 20 ans. Et Dieu a donné un enfant, ou même deux enfants, à ce moment-là, c'était des jumeaux, qui s'appelaient Jacob et Ésaü. Ou encore Zacharie et Élisabeth avec Jean-Baptiste. Ce fut des miracles de Dieu en donnant la vie ou en guérissant ceux qui étaient chez les parents. Vous voyez différentes manières de donner la vie. Mais en fait, la naissance virginale, nous sommes dans un autre cas qui ne s'est jamais produit. Un cas unique qui ne se reproduira d'ailleurs plus jamais. Alors un élément important ici, c'est que Luc... On a lu avant dans l'évangile selon Luc. Luc, c'est un médecin. Donc, il savait comment ça se passait pour avoir des enfants. D'accord? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'y connaissait rien. Et le texte de Luc le précise bien. Il n'y a pas eu d'intervention humaine. Donc, si ce n'était pas un médecin, vous dites, c'est quelqu'un qui croit que ça arrive comme ça. Non. Il n'y a pas eu d'intervention humaine. Matthieu le dit d'ailleurs très explicitement, on l'a lu avant dans le verset 18 du chapitre 1 où il est dit « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » Marie n'a pas connu d'homme. Marie n'a pas eu de relation sexuelle. Aucun médecin généticien n'est intervenu dans le corps de Marie. et il n'y a pas eu d'intervention humaine, et Marie était enceinte. Ok ? Donc Marie n'a pas connu d'homme, elle n'a pas eu de relation sexuelle, aucun médecin généticien n'est intervenu dans le corps de Marie, il n'y a eu aucune intervention humaine, et Marie fut enceinte. C'est un premier point clé pour comprendre ce qu'est la naissance virginale de Jésus. Il n'y a pas eu d'intervention humaine, et Marie fut enceinte. Ça va ? C'est un point important hein, pour comprendre ce qu'est la naissance virginale. Et j'ajouterai que Marie n'a eu aucune relation sexuelle avec qui que ce soit. C'est un blasphème de penser que le Saint-Esprit qui est Dieu aurait eu des relations avec Marie. Certains accusent les chrétiens de dire cela, mais c'est faux. La Bible ne dit pas cela. Celui qui donne la vie à la poussière, à une côte, ne peut-il pas aussi donner la vie dans le sein d'une femme uniquement par sa parole ? Par rapport à cette virginité, juste une petite image intéressante que vous pourrez développer ensuite, qui m'a été soufflée, une image intéressante pour les adultes particulièrement. Pour toute autre personne, la porte de la virginité de la femme est ouverte par l'homme pour ensuite concevoir. Ça, c'est le cas pour tous habituels. Dans le cas de Jésus, c'est lui de l'intérieur qui ouvre la porte de la virginité et qui vient donner la vie au monde. Alors si je souligne qu'il n'y a pas d'intervention humaine, c'est que je veux souligner aussi qu'il y a eu une intervention divine. Dieu est intervenu. Il a placé Jésus dans le ventre de Marie, si vous voulez. Jésus s'est fait homme. Il l'est devenu dès le début de la vie d'un homme. Parce que Jésus, il aurait pu apparaître déjà adulte. Adam, il a été créé adulte. Celui qui a créé Adam aurait pu devenir adulte avec l'âge qu'il voulait, le corps qu'il voulait, la stature qu'il voulait, la force qu'il voulait, enfin, etc. Mais il a choisi de venir dans le monde en sortant du sein d'une femme, donc en vivant également la gestation des 9 mois comme tous les autres êtres humains. Jésus est notre représentant. Il va donc vivre totalement ce que nous avons vécu dès le premier instant de notre vie qui se passe dans le sein maternel lors de la conception. Mais il est aussi important de souligner ici que Jésus existait déjà et vivait déjà avant de venir dans Marie. À nous, notre vie commence à la conception. Avant, nous n'existons pas. Jésus, lui, existait et était actif déjà avant. Nous le voyons se manifester dans l'Ancien Testament, par exemple, lorsque vous voyez l'ange de l'Éternel, généralement, ça fait référence à Jésus-Christ, en fait, qui se manifeste déjà dans l'Ancien Testament. Ou un élément très clair dans Ésaïe, où Ésaïe voit quelqu'un sur un trône, et dans le livre des Actes, il est dit que celui que Ésaïe voit sur le trône, c'est Jésus-Christ. Il était déjà là, il existait déjà. Mais son existence humaine, le commencement de sa nature humaine, il ne l'a eu que lors de son entrée dans le sein de Marie. Marie a donné naissance à un homme, et non pas à Dieu. Dieu existait déjà avant. Marie a porté l'enfant homme. Certes, c'est vrai, il était aussi pleinement Dieu. Et elle a eu le privilège d'être son berceau pendant 9 mois. Mais elle n'a pas donné naissance à Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu qui est infinie et éternelle. Marie, comme le monde dans lequel Jésus est venu, est touchée par le péché. Et le Sauveur vient justement pour sauver. Et comme elle le dit très bien dans son chant, vous pouvez lire dans Luc 1, ça c'est au verset 47, elle appelle Dieu son Sauveur. Quelqu'un qui n'a jamais péché n'a pas besoin d'un Sauveur. Et personne ne peut être le Sauveur de quelqu'un qui n'a pas péché. Voilà, c'est vraiment un élément important de comprendre. La virginité de Marie ne signifie pas un état sans péché, mais un état de pureté sexuelle, ce qui évite en fait toute idée que Jésus puisse être l'enfant d'un homme. Pour ça qu'en fait cette virginité est importante, c'est que Jésus n'est pas l'enfant d'un homme, il est l'enfant d'une femme uniquement, et cela par l'intervention divine. Donc j'avais parlé avant d'une première clé pour comprendre cette virginité, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine. La deuxième clé, je crois que vous l'avez compris maintenant, il y a eu une intervention divine. Et Marie fut enceinte. Et la virginité de Marie était nécessaire pour que la naissance de Jésus ne soit pas en lien avec une intervention humaine. Jésus existait déjà et il ne devait pas être créé. Et il devait trouver un endroit où venir se manifester dans le monde. Vous savez, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. C'est Dieu qui est devenu un homme. Et la différence. Ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dernière chose encore dans ce domaine, c'est que la virginité de Marie n'était pas une décision de sa part. Marie n'a pas décidé « je veux être vierge devant l'ange ». Là, hein. Au verset 37 de Luc 1, il est dit clairement, donc Marie dit à l'ange « comment cela se produira-t-il » Il lui a dit « tu auras un enfant ». Mais comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Elle ne dit pas « puisque je n'aurai jamais de relation avec... » Non, mais maintenant là. Je ne connais pas. J'ai encore pas eu de. On est fiancés, d'accord, mais on ne vit pas ensemble. Comment ça se passe? Et on trouve aucun endroit dans la Bible l'idée de vouloir se marier en voulant rester vierge. Ça n'existe pas. D'ailleurs, les Juifs diraient que le mariage est nul. Marie n'est pas vierge par décision. Et elle ne restera d'ailleurs pas à la naissance de Jésus. Et par la suite, elle aura d'autres enfants. Les évangiles ne permettent aucun doute là-dessus. Marie était vierge afin que nous comprenions qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine dans la conception de Jésus. Marie était vierge afin que nous comprenions qu'il y a eu une intervention divine dans la conception de Jésus. Alors, les enfants, si je vous demande qu'est-ce que cela veut dire que Jésus est né d'une vierge, qu'est-ce que vous pourriez répondre? Je vais vous donner une réponse que vous pourriez dire. Vous pourriez dire, Jésus n'a pas eu de papa humain. D'accord? Quand on dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est né d'une vierge. Jésus n'a pas eu de papa humain, mais il eut un papa divin qui lui a donné un corps pour naître. Voilà. C'est ça. Quelqu'un disait, Jésus est entré dans ce monde, il n'en est pas issu. Il est entré dans ce monde, il n'en est pas issu. Alors pensez-vous qu'il est possible qu'une fois dans l'histoire de l'humanité, un homme soit né d'une femme sans intervention humaine? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous pensez que ça s'est passé? Eh bien, votre réponse dépendra de la puissance que vous attribuez à Dieu. Si nous savons maintenant que la naissance virginale de Jésus est une conception sans intervention humaine et avec l'intervention de Dieu, pourquoi cela a-t-il eu lieu? C'est notre deuxième point. Pourquoi la naissance virginale? Pourquoi? Eh bien, une première chose, c'est que cela avait été annoncé. Dieu qui contrôle l'histoire avait dit au serpent qui avait trompé Ève, hein, ça fait très, très très loin, ça c'est dans la Genèse, premier livre de la Bible, troisième chapitre. En fait, il lui avait dit la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et si un homme n'a pas été impliqué dans la conception de Jésus, il était important qu'il soit la descendance de la femme. Dieu avait déjà choisi sa manière d'agir avant que cela se passe. Il l'avait déjà choisi et il l'annonce. Dieu fait ça pour nous montrer qu'il contrôle tout, en fait. Il n'est pas surpris par ce qui se passe. Hein, Dieu avait choisi sa manière d'agir avant que cela se passe. Il avait annoncé la naissance virginale et simplement l'accomplissement. C'est l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé. Un autre texte, donc ça c'était Genèse 3:15, un autre texte, nous l'avons entendu tout à l'heure. Ésaïe 7,14 a annoncé ce qui allait se passer. Hein. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors tous les spécialistes ne s'accordent pas sur le terme utilisé dans Ésaïe 7,14. Était-ce le terme hébreu désignant une jeune fille, comme je viens de le lire, ou désignant une vierge, comme on l'a entendu tout à l'heure? Eh bien, le terme grec du texte inspiré est sans équivoque. Dans Matthieu 1:23, que nous avons entendu tout à l'heure, il est dit, voici, la Vierge sera enceinte. Et ce terme-là, en grec, il n'y a pas de confusion, jeune fille ou vierge. Et donc, ce terme-là, dans le Nouveau Testament, nous permet de comprendre le texte dans l'Ancien Testament, sans plus avoir de problème de savoir est-ce que c'est jeune fille, est-ce que c'est vierge. Et si nous pouvons comprendre que la naissance virginale a été annoncée, nous pouvons aussi comprendre que l'enfant à naître serait particulier. Il est dit dans Ésaïe 9:5, car un enfant nous est né, donc un enfant nous est né, hein, ça va? Un enfant. Vous arrivez à, c'est bon, un enfant. Vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. Hein. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un enfant. Comprenez là? Donc, cette notion que cette naissance particulière était annoncée, donc on le voit aussi dans ce texte, c'est un enfant qui est en même temps appelé Dieu. C'est particulier, non? C'est totalement particulier. Ou dans d'autres textes, dans Ésaïe 7,14, d'ailleurs, il était parlé d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Donc, pourquoi la naissance virginale? Premièrement, cela avait été annoncé. Deuxièmement, c'est le moyen de rester Dieu en devenant homme. La naissance virginale est le moyen utilisé pour que Jésus reste Dieu en devenant homme. Si Jésus était le fruit de la séduction d'un Romain ou tout autre homme avec Marie, ou que Joseph a vécu l'acte conjugal avant le mariage, Jésus est un homme et non pas Dieu. Ce n'était pas possible qu'un enfant naturellement conçu soit Dieu, qui n'est pas conçu et qui est éternel. Vous rappelez avant, je dis, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Or, si Jésus est pleinement humain par sa naissance d'une femme, il est aussi pleinement divin. Ce que nous croyons, parce que tout le Nouveau Testament l'affirme, sa vie l'affirme, Dieu l'affirme en l'appelant son Fils bien-aimé. Si Jésus est pleinement divin, il ne peut avoir un homme pour père. Donc la naissance virginale est le moyen utilisé pour que Jésus reste Dieu en devenant homme. Pour qu'il reste Dieu en devenant homme. Troisième raison de la naissance virginale permet de ne pas recevoir la nature pécheresse. Si la naissance virginale est aussi une nécessité pour ne pas être atteint par le péché. Tous les descendants d'Adam et Ève, vous et moi, héritons de la nature pécheresse. Pour ne pas être pécheur, il faut donc ne pas être dépendant de son ascendance. Mais on est tous dépendants de son ascendance, totalement ici. Jésus n'a pas de père humain. Il ne figure pas dans la descendance pécheresse. Comprenez bien, ce n'est pas le matériel génétique de l'homme ou de la femme qui donne la nature pécheresse. Le matériel génétique donne la chair. C'est vrai qu'il est touché par ce péché, mais ce n'est pas la nature pécheresse. Jésus a pris cette chair, on pourrait dire, comme un manteau sur sa nature divine. Il a d'ailleurs dû se faire très petit pour y entrer. Un petit peu comme, vous avez déjà vu la taille d'une souris? C'est comme ça, hein, à peu près. Ou bien un mulot, je ne sais pas, c'est le sucre que vous voudrez. Imaginez cette souris, elle a un manteau, d'accord? Et vous devez mettre ce manteau. Il faudrait se faire très 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 petit, vous êtes d'accord? Mais c'est une petite illustration de ce que Jésus-Christ a fait pour devenir homme. Pour un peu comprendre donc cette notion du manteau comme un manteau de souris dans lequel on devrait entrer. Jésus a physiquement mis le même manteau que nous, mais sa nature humaine avait pour fondement une nature semblable à celle d'Adam avant la chute. Et en même temps, une nature divine. C'est une création, hein. Ce n'est pas une génération comme pour nous de manière d'un père et d'une mère. Donc la naissance virginale est une nécessité pour ne pas être atteint par le péché. Quatrièmement, la naissance virginale souligne le surnaturel dans la vie de Jésus. Donc la naissance virginale souligne le surnaturel dans la vie de Jésus. Il commence par un miracle, la naissance virginale, c'est lorsqu'il devient homme. Et il termine par un miracle, la résurrection, c'est quand il devient un homme nouveau. Durant sa vie, il a fait des choses que les libéraux ont dénigrées et écartées de la Bible, comme transformer de l'eau en vin, marcher sur l'eau, arrêter des tempêtes, guérir des malades, ressusciter des morts, et même pardonner des péchés en son propre nom. Mais si vous croyez que Jésus est né d'une vierge, sans aide humaine, que vous croyez à la conséquence qu'il est Dieu, rien n'est donc plus étonnant ou impossible. Rien n'est étonnant ou impossible dans la vie de Jésus-Christ telle qu'elle nous est rapportée si nous croyons qu'il est né réellement d'une vierge par l'intervention divine. Combien de juifs qui étaient contre Jésus auraient donné pour recevoir un témoignage qui indique que Jésus a péché? Ils ont cherché, hein, pour le mettre à mort. Ils ont vraiment cherché. Et qui montre que Jésus même est né dans le péché. Imaginez, si celui qui aurait couché avec Marie, comme certains le pensent, pouvait témoigner, s'il y avait un homme, s'il avait pu témoigner. Mais on l'aurait payé tout ce qu'on pouvait pour qu'il vienne témoigner. Puis on l'aurait protégé après peut-être des conséquences. Pour dire, mais viens témoigner pour montrer à tout le monde que c'est une bêtise cette naissance virginale. Mais il n'y en a jamais eu. Jamais eu. Ils ne trouvèrent aucun témoin et ils devaient reconnaître que ce que Jésus faisait était surnaturel. Si la naissance virginale nous permet de comprendre que cela a accompli ce qui était annoncé, que c'était le moyen de rester Dieu en devenant homme, que cela permet de ne pas recevoir la nature pécheresse et que cela souligne le surnaturel dans la vie de Jésus, j'aimerais encore vous parler de deux autres choses. La naissance, si l'humanité avait le moyen de se sauver elle-même, il n'aurait pas fallu une aide extérieure, une aide venue d'ailleurs. On aurait pu avoir un enfant d'un père et d'une mère qui vient sauver l'humanité. La naissance virginale montre que l'humanité a besoin d'un sauveur qui s'identifie à l'humanité. On va faire partie de l'humanité, c'est Jésus qui naît d'une femme, mais qui ne peut pas venir de l'humanité elle-même. Jésus est conçu par le Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas la capacité de sauver, de se sauver elle-même. La naissance virginale montre que l'humanité a besoin d'un sauveur qui s'identifie à elle. Ça, c'est la naissance de Jésus par la femme. Mais qui ne peut pas venir de l'humanité elle-même, ne peut pas se sauver elle-même. Jésus est conçu par le Saint-Esprit. Donc la naissance virginale montre que l'humanité a besoin d'une action externe d'elle-même pour être délivrée du jugement, de la colère de Dieu qui s'amoncelle sur elle et augmente à chaque nouveau péché. Et la deuxième et dernière chose de ce point, c'est que la naissance virginale montre que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative. L'ange ne demande pas à Marie, « Bonjour Marie, est-ce que tu aimerais être enceinte ?» Ben non, non. Il l'informe, « Tu vas devenir enceinte. » L'initiative vient de Dieu. Il ne demande pas la permission à Marie, ni à Joseph d'ailleurs. Mais il prend la peine de les avertir par des messagers surnaturels pour leur dire ce qu'il allait faire. Et voici ce qu'il a dit à Joseph, par exemple dans Matthieu 1,20. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, est-ce que tu aimerais prendre Marie comme femme ? Même si peut-être elle est enceinte. » Mais non, il n'a pas dit ça. Là, je n'ai pas lu le texte biblique, là. Je lis le texte. « Joseph, fils de Marie, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Remarquez, aucune permission n'est demandée à Joseph, uniquement des informations de ce que Dieu fait et de ce que Joseph est appelé à faire. Cette naissance virginale montre que c'est Dieu qui prend l'initiative. Il s'agit du vrai Dieu, les amis, pas d'un Dieu inventé par l'homme qui parle quand on a envie de l'écouter puis qui se tait quand on ne veut plus l'entendre. Ça, c'est les faux dieux. Ça, c'est des dieux qu'on invente nous-mêmes. Mais le vrai Dieu, il parle même quand on ne veut pas l'entendre. Il nous dit des choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire. Il nous dit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Le vrai Dieu fait ce qu'il veut. Il ne s'adapte pas à nous. C'est à nous de nous adapter à lui, s'il est effectivement le vrai Dieu. Et voici ce qu'il dit à Marie. Donc il envoie son ange et il dit, « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. » Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, parce qu'elle a compris là qu'elle va être enceinte, elle dit, mais comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Puis quand on parle de couvrir, on peut avoir vraiment cette image, comme dans l'Ancien Testament, où vous aviez la nuée qui couvrait le tabernacle. C'est cette idée-là, en fait, être rempli. Donc, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et là, il lui dit encore quelque chose. Il dit, écoute, je vais te donner maintenant un élément qui t'encourage, comme une preuve. Voici qu'Élisabeth, ta parente, Élisabeth, elle savait que c'était sa cousine, elle savait qu'elle ne pouvait pas d'enfant, Élisabeth, elle était très âgée, etc. Il dit, mais voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Marie, peu de temps après ça? Elle est allée voir Élisabeth, justement. Et elle a vu que ce que l'ange lui a dit était vrai. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est la troisième élément clé et peut-être principal de la naissance virginale qui nous introduit au dernier point. Rien n'est impossible à Dieu. Or, cette naissance virginale de Jésus, qu'est-ce que cela change à ma vie? C'est sympa, c'est une belle histoire, mais qu'est-ce que ça change alors? Bon. Alors si je crois en la naissance virginale de Jésus, je crois vraiment que rien n'est impossible à Dieu. Si je ne crois pas ça, ben je ne crois pas que rien n'est impossible à Dieu. Mais si je crois que rien n'est impossible à Dieu, ce sera un rappel pour moi dans chaque moment de ma vie qui permettra de m'appuyer sur sa promesse et de dire rien n'est impossible. Il m'a fait des promesses. Il nous fait des promesses. Pour celui qui sont en Christ, il nous fait des promesses. Et si nous croyons que rien n'est impossible, on peut réellement s'appuyer sur ces promesses. Si vous ne pensez pas que Dieu peut tout faire, plus rien ne tient. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas accomplir ce qu'il vous dit, non? Qu'est-ce que la naissance virginale change à ma vie? Eh bien, elle me place devant un choix. Soit je crois et je peux faire confiance à Dieu pour tout ce qu'il me dit, soit je ne crois pas, et alors, comme il y a des choses impossibles à Dieu selon moi, je n'ai plus d'appui fiable. Donc la naissance virginale de Jésus indique que rien n'est impossible à Dieu. Cela signifie que tout ce que Dieu me promet et dit dans sa parole, il va l'accomplir dans ma vie. La naissance virginale de Jésus indique que rien n'est impossible à Dieu. Cela signifie que tout ce que Dieu me promet et dit dans sa parole, il va l'accomplir dans ma vie. Nous avons aussi vu que la naissance virginale nous indique que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que ça change dans ma vie de savoir que Jésus est Dieu? Eh bien, s'il est Dieu, il peut réellement pardonner mes péchés lorsque je vais à lui dans la repentance et la foi. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. S'il est Dieu, il peut me pardonner mes péchés. S'il est Dieu, il peut me donner ce que j'ai réellement besoin, combler mes aspirations les plus profondes de communion, d'amour, de paix, de sérénité. Si sa naissance d'une vierge n'est pas vraie, ben pourquoi est-ce que je ne chercherais pas mon bonheur, ma joie et mon réconfort dans une autre personne? Comme le font tant de gens sans réel succès durable. Tôt ou tard, la personne sur qui on place sa confiance va nous décevoir. Parce qu'elle n'a pas la puissance de nous donner. Elle n'est pas Dieu. Et quel poids nous mettons sur des personnes, parfois, en cherchant notre bonheur sur elles. La naissance virginale de Jésus indique que Jésus est Dieu. Cela signifie qu'il peut réellement répondre à tous mes besoins. Je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. La naissance virginale de Jésus nous indique que Jésus est Dieu. Cela signifie qu'il peut réellement répondre à tous mes besoins. Je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Si Jésus avait un père humain, alors la Bible ne serait pas digne de foi. Parce qu'elle dit qu'il n'avait pas de père humain. S'il en a eu un, ben la Bible, vous pouvez la jeter. Parce qu'il y a, s'il y a un mensonge dans la Bible, pourquoi il n'y aurait pas d'autre? Mais cela signifie pour moi que si je prends la Bible au sérieux, et je crois en la naissance virginale de Jésus, et je crois que Jésus est né d'une vierge, je fais un grand cas de toutes ses paroles, de tout ce qui parle de ses œuvres et de sa personne. Pour conclure, rappelons-nous, dans ces temps de Noël, que la naissance de Jésus d'une vierge est la porte d'entrée dans le vrai Noël. Si nous n'entrons pas par cette porte, nous pourrons bien manger des bons repas, avoir des petits cadeaux. Oui, bien sûr qu'on peut vivre cela. Mais jamais nous ne connaîtrons la vraie consolation, le pardon, la purification de notre âme, la réconciliation avec Dieu, la perspective certaine d'une vie heureuse pour l'éternité, si nous n'entrons pas par cette porte. Par contre, si nous y entrons, ce qui signifie, si nous croyons que Jésus est né d'une vierge, alors nous comprendrons et nous accepterons et verrons que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et je souhaite à chacun de vivre et voir Noël comme un moment où nous nous rappelons que rien n'est impossible à Dieu. Et que ce Noël cette année, ce Noël 2017, eh bien quand vous pensez à Noël, quand vous voyez les lumières qui nous rappellent la lumière de Jésus-Christ, enfin, etc., les cadeaux qui nous parlent du cadeau de Dieu en Jésus-Christ, etc., que vous dites « Rien n'est impossible à Dieu. Rien !»